Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio Télévision Suisse,
Radio Canada.
Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans la librairie francophone. C'est une drôle d'époque, paraît-il. C'est la phrase clé en ce moment avec tous ceux que l'on croise. C'est une drôle d'époque. Et quand on lit les romans et récits actuels, on constate qu'ils sont le reflet de cette époque bizarre. Du coup, avec les livres, on réfléchit, on pose un regard distancié, on se cultive pour mieux appréhender cette période. Car non, ce n'est pas une drôle d'époque. C'est le monde que l'on s'est construit. Ni drôle, ni très sérieux, ni définitif. Il faut juste rêver, voyager dans sa tête et surtout rire un peu, beaucoup. C'est ce que l'on aime porter ici. Voici le sommaire de cette édition.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
Nous irons en Haïti avec le roman très personnel du poète canado-haïtien Rodney Saint-Éloi, un livre intime et musical sur sa mère disparue. Le Belge Thomas Gunzig propose une histoire loufoque sur la crise de la cinquantaine, composée autour de thèmes très contemporains. Nous serons avec la grande écrivaine Geneviève Brisac qui attaque les travers du monde de l'entreprise et du pouvoir. Le pouvoir qui détruit mentalement les employés et notamment les femmes. Et puis vous entendrez l'artiste MC Solar avec un extrait de son entretien réalisé dans le cadre de la version télé de l'émission. Les libraires sont avec nous comme chaque semaine. Ils interviendront bien sûr tout au long de cette émission. Bonjour Claire Renaud.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la Suisse dans la librairie Atmosphère à Genève. Tout va bien Claire ?
Tout va très bien.
Bon, en Belgique, c'est Déborah Damblon qui est avec nous depuis Bruxelles dans la librairie Le Public par filigrane. Bonjour Déborah.
Bonjour Emmanuel.
On vous retrouve dans la version télé de la librairie francophone qui a été diffusée cette semaine sur RTBF La 3, RTS 2 et ici RTV de Radio-Canada et qui sera diffusée donc ce dimanche 30 janvier sur TV 5 Monde. Vous regarderez j'espère avec nous.
Bien sûr.
Enfin, avec tous les téléspectateurs quoi.
Je vous regarderai Emmanuel.
Moi je vous regarderai. Allez bonjour. D'accord. Sophie Todescato.
Bonjour Emmanuel.
Vous représentez la France, vous êtes libraire à Orléans dans la librairie Les Temps Modernes. Bonjour Mike Viennot.
Bonjour, ça va bien?
Ça va et vous? On a un petit problème de liaison aujourd'hui avec vous. Voilà, c'est comme ça. C'est la méthode Covid aussi,
oui.
Avec les liens à distance.
Eh oui.
Vous êtes libraire au Canada, dans la librairie Monet au nord de Montréal. Et vous allez nous raconter une anecdote de libraire en ce début d'émission, Mike.
Ben oui, je vous raconte ça. Il y a une dame qui se présente la semaine passée avec une liste de romans policiers, puis elle veut que je la mène dans la section, et soudainement, elle me regarde et me dit, ben, vous avez pas grand-chose. Mais là, je lui dis, mais écoutez, on a ça, il y a plein de livres, il y a la table là-bas. Et elle était un peu indignée, et elle me dit, je vais aller voir votre compétiteur, jetez le nom, ou pire, elle va acheter sur Amazon.
Oh là.
Alors, j'ai changé de stratégie, j'ai regardé sa liste, et finalement, elle est partie avec deux livres et deux livres commandés.
Ah d'accord, comment vous avez fait pour la convaincre?
Ben écoutez, j'ai sorti mes talents de libraire.
Ouais, c'est ça, il faut acheter ses livres chez les libraires indépendants, je le rappelle, jamais sur les plateformes du nom, voilà, bref. Merci pour cette anecdote Mike, vous aimez le groupe Radiohead?
Oui.
Eh ben très bien, comme Thomas Gunzig, écoutez. But I'm a... Et bonjour Thomas Gunzig.
Bonjour.
Sur cette musique de Radiohead, Creep, que vous citez en exergue, vous aimez ce titre? Il représente votre livre?
Absolument, et c'est oui. Une merveille absolue hein, ce titre.
C'est ça, avec ce relief aussi musical, relief aussi dans votre écriture. Le sang des bêtes est un livre fou. Tout commence avec la crise de la cinquantaine d'un homme, amateur de salles de musculation, qui a la sensation étrange de ne plus s'intéresser à rien. Il y a chez lui une grande lassitude.
Oui, exactement. Ben, en tout cas, il se demande, il se pose cette question, c'est qu'est-ce qu'il a fait de sa vie?
Ouais.
Et lorsqu'il se retourne sur son passé et lorsqu'il regarde un peu son avenir, il a l'impression que ben, de son passé, il n'a pas fait grand-chose et qu'il n'a plus grand-chose à attendre de son futur.
Ouais.
Donc voilà, c'est là qu'il en est.
Et il a musclé son corps pour mieux exister dans la société, c'est ça?
Mais il a musclé son corps pour exister dans la société, mais aussi surtout pour échapper à son ascendance juive qui est persuadée comme une sorte de malédiction physique. Hein. Il y a tout un enjeu politique autour du corps des juifs qu'on imagine, en tout cas qu'on vend comme étant un corps petit, malin, maigre, malade.
Tous les clichés qui vont avec.
Exactement. Quoi, ouais. Et lui veut échapper à ça. Il veut se dessiner un nouveau corps.
Alors, vous racontez au passage les dérives de ceux qui veulent un corps musclé avec les compléments alimentaires, ces poudres de performance et de protéines qui dévastent le corps à l'intérieur, dites-vous. Vous semblez en tout cas bien vous y connaître, hein, Thomas.
Ah, mais oui. Mais c'est parce que moi-même, j'ai fait pas mal, j'en fais toujours d'ailleurs, de la salle et je prends beaucoup
de
produits-là.
Ah, vous faites de la salle, vous?
Ah, oui, d'accord. J'aime beaucoup le sport, donc je fais toutes sortes de sports.
Ouais, ouais. Et... Vous êtes très musclé, alors.
Ben, écoutez,
là, vous avez un pull, donc.
Ouais, ça, vous voyez pas, mais
non,
en fait,
pas
en dessous,
trop.
Ça va. et donc, c'est vrai que j'ai essayé de pratiquer le sport de manière un peu systématique et scientifique, et donc, j'ai pris et je prends toujours des compléments alimentaires légaux, ceux qui ne détruisent pas le corps. Donc, les protéines ne détruisent pas le
mais
corps.
Mais c'est mauvais pour la santé quand même.
Non,
ça.
Non, pas du tout. Ce sont les hormones de croissance et tout ça qui sont mauvais pour la santé, mais les protéines, pas du tout.
D'accord. Alors, ça aide à prendre confiance en soi, à être bien dans son corps, la muscu, hein, Thomas Gunzig. On va lire un extrait de votre livre pour se mettre dans l'ambiance. Et je n'ai pas résisté à l'envie d'en entendre Geneviève Brisac lire un passage sur le sujet. Vous êtes d'accord, hein, Geneviève?
Je suis parfaitement d'accord, d'autant que j'apprécie énormément les barres de protéines.
La musculation. Les barres de protéines, oui, parce que Thomas lui a donné une barre, parce que vous aviez un petit coup de mou, comme on dit.
Hein,
mais il faut tout raconter.
Mais il faut tout raconter. J'ai eu la chance d'avoir ce cadeau de Thomas Gunzig, une barre de protéines absolument délicieuse et qui m'a remise d'aplomb. J'en avais besoin.
Voilà, la publicité pour les barres de protéines aujourd'hui dans la librairie
francophone. Sur les barres de protéines offertes par Thomas Gunzig, faut quand même...
Bon, pour le remercier, on va lire un extrait de son ouvrage, d'accord?
Exactement.
Allez-y, je vous laisse lire. C'est page 52-53, Geneviève.
L'extrait du livre de Thomas Gunzig. Il savait que beaucoup de gens trouvaient que la musculation était affreusement ennuyeuse. N'était pas son cas. Au contraire, répéter ses séries, atteindre la limite de la douleur, sentir ses muscles se congestionner, charger et décharger ses haltères, était une activité qui allégeait son esprit. Il oubliait son âge, qui le rapprochait de la vieillesse. Il oubliait sa femme, qu'il ne désirait plus, son fils, qu'il ne comprenait pas. Il oubliait les factures à payer, il oubliait son travail qui l'ennuyait, il oubliait tout le limon visqueux de sa réalité. Il ne pensait plus ni au passé, ni à l'avenir. Il n'était plus qu'un métabolisme produisant de l'énergie pour tirer, pousser ou soulever.
Voilà.
C'est extrêmement
Merci,
bien,
Geneviève.
Lui.
La musculation,
tout l'enregistrement, ça serait bien.
Avec plaisir.
La musculation, ça permet à votre personnage de s'approcher du bonheur, Thomas?
Ben, malheureusement, non, c'est ce qu'il croit, mais c'est une impasse, évidemment, et le bonheur est bien au-delà de ce qu'il pense.
Alors, un jour, tout bascule dans sa vie. Il croise, pas loin de sa boutique, qui vend des compléments alimentaires pour les sportifs, hein, d'ailleurs, un couple qui se dispute, un homme qui bouscule sa compagne, et il intervient. Cette jeune femme s'appelle N7A. Alors, on pourrait l'écrire en toutes lettres, sauf que elle, ça s'écrit N, 7, le chiffre, et A. Elle ressemble à une icône du cinéma porno, c'est son fils, c'est le fils de Tom qui remarque ça, et elle dit être une vache.
Absolument. Donc effectivement, au départ, personne ne
personne
la croit.
Personne n'y croit,
parce que personne ne peut croire quelqu'un qui vous raconte ça, mais néanmoins, Tom va finir par y croire, il va finir par croire que cette femme est ce qu'elle prétend être, c'est-à-dire une vache génétiquement modifiée, de manière à ressembler à une belle jeune femme. Et c'est là que va commencer, en gros, toute l'histoire.
Vous développez par métaphore, Thomas, la façon dont les hommes se comportent avec les animaux. On va voir ça ensemble, il y a un passage très évocateur. On va laisser la parole à nos libraires, voir ce qu'ils ont pensé de ce roman très étrange, la crise de la cinquantaine avec ce personnage, sa famille plutôt installée, il sait pas trop où il va, il fait un point sur sa vie, et puis cette rencontre avec cette femme vache. On va commencer avec la Suisse, Claire Renaud, qu'en pensez-vous?
Alors moi j'ai trouvé que c'était un roman très agréable à lire et qui nous fait sourire tout le long au fil des pages qui se tournent. Et je suis pas sûre d'avoir saisi tout le deuxième degré de votre livre. Par contre j'ai apprécié votre ton décalé. Vous avez un regard évidemment sur nous qui est très lucide, mais la lecture n'est jamais déprimante. Donc je trouve que c'est une lecture en fait joyeuse qui met à mal nos certitudes.
C'est vrai que c'est un livre joyeux. Sophie Todescato, en France, êtes-vous d'accord?
Ah oui, ça m'a beaucoup plu. J'ai trouvé que c'était une histoire très bien racontée, qui est à la fois très juste dans la satire sociale, dans l'observation, et en même temps très aventureuse dans son rapport au réalisme, au vraisemblable. Alors, ce mélange des genres pourrait sembler improbable, irréconciliable, mais vraiment, ça marche très bien à la lecture. C'est un livre qui a raison de prendre des risques et des libertés, et qui est vraiment très réussi.
Le sang des bêtes au diable Vauvert. Vous avez séduit nos libraires. Thomas Gunzig, félicitations. Alors, vous démontrez que tous les animaux sont bien plus forts que l'homme. Même les insectes, proportionnellement, sont plus forts. C'est vrai, quand on voit les fourmis se trimballer ce qu'elles se trimballent. Et on est les plus faibles dans ce monde.
On est extrêmement fragile, mais c'est pour ça qu'on a développé une intelligence pareille, parce qu'en finalement, à la base, on est vraiment, on est très très faible. Mais c'est vrai que c'est un roman dans lequel j'ai voulu un petit peu interroger la place de l'homme, de l'humain au milieu du vivant.
Il y a Enseta, donc, qui dira une chose très juste à ce propos. Le monde est rempli de créatures qui pourraient vous détruire en un instant. Les singes, les requins, les kangourous. Vous êtes tous si faibles que pour vous, le monde est un endroit dangereux et effrayant. Vous avez développé une technologie qui vous a permis de tout détruire. Ça vous a rassuré de faire ça. Aujourd'hui, vous ne laissez vivre que les animaux qui vous amusent ou qui vous nourrissent.
Exactement, oui c'est ça, c'est exactement ce que je voulais faire, c'était, on a un drôle de rapport au vivant, c'est-à-dire qu'on a l'impression d'être au milieu du vivant, de ne pas en faire réellement partie, de l'observer un peu comme en surplomb, comme des propriétaires, des plantes, des choses, des animaux, alors que finalement peut-être qu'on devrait se dire, tout simplement se rappeler qu'on est nous aussi des animaux sensibles.
Vous êtes documenté Thomas Gonzic, parce qu'à un moment vous dites qu'on tuerait 2000 animaux par seconde.
Oui, tout à fait. Ce sont des chiffres.
2000 par seconde.
Il faut prendre en compte tout, hein. Mais si, en fait, c'est assez vertigineux. Si vous baladez dans une grande capitale, vous dites que tous ces gens mangent midi et soir du poulet, du cochon, du bœuf, du poisson. Donc, ça fait beaucoup, beaucoup d'animaux à tuer.
Alors, il y a un autre sujet que vous abordez. Vous soulignez l'air de rien comme ça, l'utilisation des femmes comme femmes objets. En tout cas, moi, je l'ai lu comme ça. Je sais pas si c'est volontaire de votre part, mais ces femmes qui appartiennent à un homme et qui n'ont aucun pouvoir de décision, ce qui semble assez dans la norme de la société. On en parlera d'ailleurs avec Geneviève Brisac tout à l'heure, parce que c'est l'un des thèmes phares de son livre.
Alors ça par contre c'est pas forcément une thématique que j'ai voulu aborder.
On peut le lire comme ça en tout cas.
Ben un livre peut être lu comme on veut en fait. Les lecteurs font absolument ce qu'ils veulent. Par contre c'était l'idée de la propriété de quelque chose de vivant. Être propriétaire d'une vache, propriétaire d'un chien, d'un chat, d'un élevage ou d'un conjoint. Tout ça relève mine de rien d'une forme de violence.
Vous la voyez comme ça cette société vous aujourd'hui?
Ah, je trouve qu'on vit dans une société, mais d'une brutalité terrifiante, absolue, oui. Je sais pas où on va, mais on n'arrive pas du tout à régler ce problème qui pollue les relations qu'on peut avoir avec les autres, avec le vivant en général, qui est toujours déterminé par un système de possession. Voilà.
Vous possédez quoi, vous ?
Ben, pas grand chose. Je possède.
Vous possédez un être humain ou pas?
Moi-même. J'espère que je me possède moi-même. Non, je pense qu'il faut se posséder soi-même et pas posséder les autres, quoi.
Bon, voici la curiosité de la semaine.
Puis j'aime bien repérer le petit détail que personne ne verra jamais.
Pour notre séquence La Curiosité, nous piochons dans le livre de l'un de nos invités une curiosité sans rapport direct avec l'histoire mais qui mérite de s'y attarder. Dans votre roman Thomas Gonzic, il est question d'une pierre islandaise dans le village de Húsafell, je ne sais pas si on prononce comme ça, qui est un trésor national.
Oui, c'est génial.
C'est une histoire vraie.
C'est absolument vrai, il y a des documentaires entiers qui sont faits sur cette pierre. C'est-à-dire que les Islandais ont comme sport national le soulever de pierres. Donc il y a des pierres légendaires qui sont là depuis des siècles, mais c'est la même pierre, c'est objet-là qui est soulevé par les villageois et puis par des gens qui viennent du monde entier pour la soulever, au point que des répliques de ces pierres sont taillées pour certaines compétitions sportives. Mais je trouve ça une merveilleuse histoire sportive, ces pierres mythiques. Il n'y a pas que la pierre de Húsafell, il y en a d'autres.
Il y en a d'autres, oui. Alors celle-ci fait 186 kilos quand même.
Voilà, et le jeu c'est de faire trois fois le tour d'une sorte de construction en pierre pour pouvoir être un des hommes les plus forts du monde. Ouais. Initialement, c'est des pierres qui étaient destinées à être des épreuves pour les marins qui s'engageaient sur les bateaux.
On les payait en fonction de leur capacité de pouvoir porter cette pierre.
Voilà, soit on la déplaçait un petit peu, soit on pouvait la bouger. Voilà,
c'est horrible.
Et le salaire dépendait effectivement de la manière dont on la bougeait.
On a toujours été des barbares, hein, finalement.
Absolument.
L'homme est un barbare. Bon, si vous voulez savoir pourquoi il est question de cette pierre, il faudra lire ce livre, Le sang des bêtes, de Thomas Gonzic. Thomas, vous avez collaboré à un album de BD, Blake et Mortimer, en 2019. On en avait parlé avec Françoise Cuyten. On a appris cette semaine la mort de Jean-Claude Mézières, co-créateur de Valérian. Et Valérian, ça vous parle, vous ?
Oui, parce que quand j'étais vraiment encore un tout petit gamin, j'avais dans ma bibliothèque, qui n'était pas très fournie, un livre de Valérian qui était Les oiseaux du maître. Et j'étais fasciné par cette bande dessinée, par l'histoire, par ses dessins sointants, gluants, ses univers bizarres, marécageux. Et puis aussi, il y avait la petite Laureline, qui est à l'origine, je crois, d'une de mes premières émotions érotiques. Je ne savais pas encore ce que c'était que l'érotisme, j'étais trop petit. Et pourtant, il y avait cette petite jeune fille en tenue galante, galactique comme ça qui évoluait dans la bouche. Et voilà, ça m'a beaucoup marqué. Et puis, ça m'a fait comprendre que j'aimais l'imaginaire, que j'aimais la science-fiction. Et je pense qu'à travers tout ce que j'ai fait après, j'ai toujours cherché un peu ce genre de relation avec l'imaginaire.
C'est vrai qu'on trouve ça dans vos romans. Il y a un peu de Mézières chez vous.
Eh ben, écoutez, c'est un beau compliment.
Oui. Jean-Claude Mézières, voilà, qui va nous manquer, un grand auteur, référence de la bande dessinée mondiale. Merci beaucoup, Thomas Gunzig.
Plaisir, plaisir.
Le sang des bêtes, donc, c'est au Diable Vauvert. À suivre dans la librairie francophone Rodney Saint-Éloi depuis Montréal. On va partir en Haïti avec lui et avec son roman très intime. Avant cela, voici un titre qui va vous plaire, Thomas. Vous aimez Bruxelles?
J'adore.
Oui. Ben, ça tombe bien. Angèle aussi.
On n'a pas les tours de New York, on n'a pas de lumière de jour. 6 mois dans l'année, on n'a pas Beaubourg ni la Seine, on n'est pas la ville de l'amour. Mais bon, vous voyez.
C'était Angèle avec Bruxelles, je t'aime. Et moi aussi, j'aime Bruxelles et Geneviève aussi. Hein. Geneviève Brisac, vous adorez Bruxelles. Tout le monde aime Bruxelles.
Les médias francophones publics.
Radio France.
RTBF.
Radio Canada.
Radio Télévision Suisse.
La librairie francophone. Emmanuel Quérade.
Et bonjour, Rodney Saint-Éloi.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes écrivain et poète, éditeur aussi, vous avez créé les éditions Mémoire d'Encrier. Merci d'être en duplex de Montréal. Votre roman, Quand il fait triste, Bertha chante, est paru chez Héloïse d'Ormesson. C'est un hommage très poétique à votre mère disparue, un cri du cœur à votre pays aussi, entre colère et regret. Vous nommez Haïti pays pourri. Vous pouvez nous expliquer?
Oui. Ah ben, le roman est planté dans un décor où on trouve la dictature, la misère, la corruption, le patriarcat et, comme je parle, de Bertha. Donc c'est une vision très très distante du pays natal, du pays tragique qu'est Haïti. Et donc, avec cette distance, donc, ce que j'ai vu comme pays, c'est effectivement un pays pourri. C'est une métaphore pour dire Haïti.
Ouais. Alors, votre mère est morte prématurément à l'âge de 72 ans. Un bête accident dans un escalier. Vous n'êtes évidemment pas préparé. Et ce qui vous manque instantanément, c'est son écoute et sa joie. C'était une femme très joyeuse. Votre maman, Bertha, elle chante. Cette chanson de Coupé Cloué que vous citez plusieurs fois, René Saint-Éloi. Cette musique, vous l'avez entendue toute votre vie.
Merci Daniel, ça m'a fait plaisir. Merci, c'est un cadeau que vous me faites avec cette musique, parce que c'est la musique de Bertha.
Ouais.
Parce que écrire la mort, c'est tellement difficile pour le fils que je suis. Donc, et donc il m'a fallu une musique pour traverser.
Bien sûr.
C'est pour traverser tout ça.
Alors, elle vous a eu très jeune, hein, à l'âge de 16 ans. Elle a ensuite résisté à la tentation du départ, malgré les conditions de vie déplorables en Haïti. Elle croyait aux racines. L'exil était la pire solution pour elle, René Saint-Éloi.
Oui, l'exil est très difficile pour Bertha. Bertha croyait à sa terre. Elle était plantée, très très plantée en Haïti. Et finalement, elle est restée jusqu'au bout quand l'espoir est épuisé pour elle. Donc, elle a tout tenté pour vivre en Haïti. Elle a négocié avec les hommes de sa vie. Elle a négocié avec la dictature. Mais finalement, elle n'a pas pu conserver l'espoir. L'espoir était complètement épuisé. Donc, elle s'est retrouvée à suivre le chemin de sa mère qui est Contita, qui est à Montréal. Et elle s'est retrouvée à New York.
Oui, chez un cousin. Elle se réfugie effectivement chez un cousin. Elle dira une phrase très jolie qui va plaire à Geneviève Brisac, je suis sûr. Elle disait, votre maman, qu'il ne faut pas aller trouver le bonheur ailleurs ou chercher quoi que ce soit. Elle disait, c'est en cherchant la vie qu'on la détruit. On doit rester fidèle finalement à ce que l'on est. C'est ça qu'elle passe comme message.
Oui, il y a beaucoup de messages. Ce qui est beau, c'est un message très créole qui dit « Chercher la vie, détruit la vie ». Elle reprend toujours ça. C'est-à-dire la vie est là où on est, le centre est là où l'on est, le soleil est partout sur la terre. Et ce qui est beau, c'est tout ce que Bertha peut donner, tout ce qu'elle a donné. C'est une femme qu'on dirait très humble, très pauvre, mais qui a tellement à donner. Et donc ça devient comme une... Elle est d'une richesse étonnante.
Ouais,
donc elle m'a donné l'amour, l'abondance, la poésie, et surtout le vertige d'exister. Donc comme la chanson qu'elle m'a donnée, cette chanson-là qu'elle écoutait à la Bali, cette chanson de Coupé Cloué, et Bertha m'a appris l'élégance de ce qu'on appelle vivre.
Vous grandissez donc à ses côtés en Haïti, vous n'aimez pas trop les hommes de passage que connaît votre maman et vous vous réfugiez dans la littérature. René Saint-Éloi, vous lisez beaucoup, au point de paraître suspect aux yeux de votre mère.
Mais la lecture est quelque chose de très suspect dans ces familles populaires où tout le monde est en train de jouer dehors, puisque la lecture c'est une espèce de huis clos. Toi-même avec le livre, puisque les espaces, c'est toujours de petites pièces, c'est pas de grandes maisons, c'est vraiment des petites pièces, et que tout le monde voit tout le monde. Donc,
mais elle croit que vous lisez de la littérature érotique. C'est ça?
Oui, elle avait peur que je lisais autre chose. Elle avait peur que c'était une... En même temps, elle était heureuse de voir que son fils lit. C'est-à-dire que pour elle, lire, c'est sortir du carcan de la misère. Donc, elle était heureuse, mais elle avait peur. Elle m'avait vu tellement obstinée dans ma lecture, elle disait qu'à mon âge, que ce devait être un livre pornographique. Elle était très, très curieuse de savoir ce que je lisais.
Oui. Bon, allez, on va voir du côté de nos libraires. Vous les connaissez, René Saint-Éloi. Il y a en Belgique Déborah Damblon, qui, je suis sûr, a apprécié votre roman, Déborah.
Oui. D'abord, j'ai trouvé que votre texte était beau et touchant. Et rien que ça, ça suffit à donner du sens à votre ouvrage. Bon, après, le reste, c'est une question de goût. Personnellement, je suis souvent troublée quand on entre trop dans l'intimité parce que j'arrive pas bien à m'y situer et puis ça peut me mettre mal à l'aise. Et après, je trouve que en dehors de vos liens familiaux, il y a vraiment beaucoup, beaucoup d'informations et pas forcément de fil dramatique, ce qui fait qu'on s'y perd un peu parfois. Mais heureusement, l'émotion et l'écriture restent là et nous ramènent chaque fois au texte. Et c'est tout.
Oui, Claire Renaud, en Suisse, êtes-vous d'accord ?
Oui, évidemment. Moi, j'ai adoré surtout la poésie de ce livre parce que en ce moment, j'ai besoin de lire la poésie et ça m'a fait un bien, cette musique et votre poésie. C'est un très bel hommage et votre mère en ressort belle, lumineuse et pure. Avec beaucoup de délicatesse, en fait, vous nous invitez à la connaître, à la découvrir et à travers l'histoire, alors tragique d'Haïti et les combats menés, la pauvreté vécue, eh bien, ce qu'il en ressort, c'est de la lumière. Votre livre, il est lumineux.
C'est vrai qu'il Merci. Est lumineux, René Saint-Éloi. Vous êtes poète, donc il y a plein de poésie, plein de passages poétiques dans ce livre. C'est très bien construit, très bien réalisé. On apprend plein de choses sur Haïti, sur l'histoire. Et au passage, vous glissez comme cela des moments très intimes. Vous n'êtes pas tendre avec Haïti, René Saint-Éloi. Vous dites « la société danse la danse du mépris. Le mépris est un sport national ».
Je suis peut-être très tendre avec Haïti si vous voyez la réalité, si vous voyez ce qui se passe. Et je pense que souvent on me pose la question de l'intimité ou bien la question par rapport à ce pays pourri. Mais je pense qu'il faut dire la vérité. Parce que je suis d'une tradition très lyrique par rapport au pays natal où tout le monde dit « puis bel pays, passez bon en point » comme si c'était le plus beau pays, alors que Haïti est fondé fondamentalement sur le mépris, socialement sur le mépris et l'exclusion. Ouais. Donc ça, il faut le dire. Et ça m'a pris du courage pour le dire, parce que je ne peux pas dire que, en fait, le racisme, j'ai beaucoup écrit sur le racisme, mais le racisme que j'ai vécu en Haïti est beaucoup plus dur que ce que je peux ou ce que je vis à Montréal, à Paris, à Bruxelles. Ouais, ouais. Donc ça, il faut le dire.
Mais vous racontez hein, en fonction des différences. Les différences de couleur de peau. Hein. Vous dites avoir été sauvé parce que vous aviez une peau noire qui était plus claire que certains autres. Et ça, vous dites, ça m'a sauvé quelque part.
Oui. Ça vous sauvera aussi, Emmanuel, si vous passez en Haïti.
Là, on y est allé. Vous savez qu'on a fait une émission là-bas.
Oui, je sais. Mais le regard qu'on porte sur vous vous dit qui est votre père, qui est et ça vous classe, ça vous dit si vous avez droit, si vous avez accès, si vous avez une espèce de passe sanitaire pour entrer. Donc la distanciation en Haïti, tout le monde le vit, tout le monde.
Depuis toujours.
Donc il y a un silence. Ouais. Depuis toujours.
Vous écrivez « Moi, par fatigue, je suis parti, fatigué de recommencer toujours la même histoire, fatigué de ces simagrées de démocratie, fatigué d'une transition qui n'en finit pas, fatigué de vivre si loin de mes rêves, fatigué de tant de misère, de haine et de trahison. J'ai vu s'étendre les collines du ressentiment, j'ai vu l'espoir épuisé, éteint, sans souffle, l'espace rétréci, vomi, terrifié, nous ne sommes plus des humains entre les humains. » Et vous confiez, cela m'a fait peur. Ça vous a fait peur de devenir comme eux, c'est ça?
Oui, ça m'a fait peur d'accepter cet inacceptable. Je pense que c'est ce qui est arrivé en Haïti. Tout le monde accepte, tout le monde sait que c'est inacceptable. Tout le monde a honte, donc on accepte cette identité. Je veux dire, c'est pas la misère qui fait mal en Haïti. Ce qui fait mal, c'est ce regard qui détruit, au lieu de construire, au lieu de grandir. Donc, je pense que c'est cet épuisement de l'espoir dont témoigne Bertha. Dans cet hommage-là, il faut dire d'où vient Bertha. Et d'où vient Bertha, c'est vraiment un enfer.
À Montréal, René Saint-Éloi, il y a un artiste qui vous fascine. Plus encore, vous dites, le plus grand cadeau de Montréal est Leonard Cohen.
Oui. Quand j'arrive à Montréal en 2001, il me fallait une raison. Parce qu'on est toujours coupable. On vit de culpabilité en culpabilité. Quitter sa terre natale pour habiter à Montréal, on se pose la question, qu'est-ce qu'on trahit ? Qu'est-ce qu'on ne trahit pas? Et j'habitais à la rue Saint-Dominique, à Mont-Royal, plateau Mont-Royal, et Leonard Cohen habitait tout près.
Oui, c'est ça, oui.
Sur la rue Coloniale.
Oui.
Donc j'ai rencontré Leonard Cohen sur un petit parc portugais.
Oui, le petit parc avec un kiosque à musique très joli face à sa maison.
Absolument. Oui. Tu connais Haïti, tu connais
Montréal. Oui, plutôt. On a fait une émission d'ailleurs avec Laurent Godet sur place. C'est autour de la maison de Leonard Cohen.
Petit parc là, c'était tout près de la maison de. Donc je me suis trouvé une raison en disant même à Bertha que mon voisin, mon grand voisin,
voisin, c'est Léonard Cohen.
Bon, merci beaucoup René Saint-Éloi, c'était un grand plaisir de vous retrouver ici. Quand il fait triste, Bertha chante, c'est un roman magnifique, lumineux, comme l'ont dit nos libraires. Il est paru aux éditions Héloïse d'Ormesson. À bientôt René.
Merci, merci bien.
La librairie francophone, Emmanuel Guérad.
Allez, on passe à la chronique des libraires. Première partie avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de gueule au Canada, Mike Vienno.
Oui, je vous parle d'Anéantir de Houellebecq. C'est pas vraiment un coup de gueule plutôt qu'un coup de fatigue, parce que bon, la gueule, on la laisse à Houellebecq, mais la fatigue, on la prend pour les lecteurs. Même personnage plat, même obsession lassante. Houellebecq s'aventure sur un terrain trop glissant du pseudo-thriller politico-terroriste. Il s'enfonce dans un regard voilé d'une France que lui seul semble observer. N'empêche que 700 pages de Houellebecq, c'est faire du surplace longtemps. C'est chercher la lumière là où il n'y a que de la petite lueur furtive.
Petite lueur furtive, donc le nouveau Houellebecq, voilà, c'est l'avis de Mike Vienno.
Je la partage totalement.
C'est vrai Geneviève?
Ah ouais.
Ah oui, d'accord. Bon, et eh ben voilà, les choses sont dites. Vous l'avez lu Thomas Gottlieb?
Ben non, je ne l'ai pas lu. Bon.
Vous n'êtes pas parti pour le lire.
Vous nous direz votre avis.
Non, j'aime bien lire des vieux trucs et d'auteurs morts.
Bon, merci Mike pour ce coup de gueule contre Houellebecq. Un hommage en France, Sophie Todescato.
Oui, on a appris cette semaine la mort de René de Obaldia, qui vient de mourir à 103 ans.
On est très triste.
Oui, alors il aura vécu 1000 vies, René de Obaldia, en traversant ce siècle, qu'il a raconté dans cette espèce de monument autobiographique complètement trépidant qu'il avait appelé Exobiographie, ses mémoires, qu'il faut absolument lire. On l'y retrouve tout entier, sa drôlerie, sa liberté, son rapport incroyablement inventif à la langue, parce qu'il avait vraiment cette espèce de souplesse dans le ping-pong verbal, ce sens du calembour qui en faisait sans doute le moins académique des académiciens, puisqu'il était académicien. Alors, tous les enfants ont un jour appris un de ses poèmes à l'école, une de ses innocentines, mais il y a mille autres choses à lire, et surtout une œuvre pour le théâtre, bien sûr, tout à fait considérable. Il faut savoir que c'est un des auteurs français les plus traduits, les plus joués au monde, et vraiment sans doute le plus drôle de ses ambassadeurs. Bien triste, donc.
C'est vrai, j'ai beaucoup de souvenirs avec René de Obaldia. Il va beaucoup, beaucoup nous manquer. Il était plein d'humour, il était pétillant à 100 ans. Oui. Voilà, moi je l'ai connu jusqu'à 100 ans, et vous l'avez connu Geneviève aussi. Voilà, René de Obaldia, on va écouter sa voix, c'était dans la librairie francophone en 2011.
Mon regard sur la vie, d'abord c'est un mystère, c'est un grand mystère. Je pourrais emprunter à mon confrère Calderon, je crois, qui avait écrit « La vie est un songe ».« Es un sueño la vida ?»« La vida es un sueño ». Moi qui suis presque centenaire maintenant, j'ai naturellement un regard à la fois plus lucide et plus confus. C'est-à-dire que plus j'avance, moins je sais, n'est-ce pas ? Je peux dire cela. Mais en tout cas, c'est pour moi effectivement un songe, d'une certaine manière, un songe. Vous savez, l'imaginaire, c'est William Blake qui disait « tout ce qui est imaginaire est vrai », n'est-ce pas ? Et nous manquons de plus en plus de l'imaginaire. Même les écrivains d'aujourd'hui, la plupart des écrivains d'aujourd'hui, ils ne prennent que la réalité, c'est-à-dire on ne sait pas très bien ce que c'est. Disons que les écrivains ne disent que ce qu'ils disent, d'une certaine manière. Ils ne disent que ce qu'ils disent, ils ne vont pas au-delà. Et l'imaginaire est quand même la fécondation, l'art et la projection et le mystère. Et toutes les grandes œuvres sont imaginaires. Écoutez, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la mort, bien sûr, et je ne vais pas montrer. Mais il y a un mot qui m'amuse beaucoup, ce mot de Jean Paulhan, qui avait dit à un moment donné « La mort, pourvu que j'arrive jusque-là », qui est une chose admirable.
René de Obaldia de l'Académie française, mort jeudi à l'âge de 103 ans. On pense évidemment à tous ses proches, à sa famille et à lui aussi. Il ne nous quittera jamais, Geneviève Brisac.
J'adore cette déclaration de René de Obaldia. Elle m'a rappelé une déclaration que faisait mon grand-père, très âgé, à peu près au même âge que René de Obaldia, qui disait « Je vais bientôt disparaître, je suis très inquiet pour vous, car je pense que je vous rêve tous. » Donc je ne sais pas du tout ce que vous allez devenir.
Bon, voilà, il va nous manquer, René. À suivre le nouveau roman de Geneviève Brisac, donc, et MC Solar, avec un extrait de son interview pour la version télé de la librairie francophone. Et voici le nouveau titre de Bernard Lavillier, en duo avec Terre Noire.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fière, plus fière que celle qu'on pas souffert. Je suis noire, je suis belle. Je suis fumée, poussière, vacarme assourdissant. Mais ça, c'était avant.
Il faudra que je parte, mais promis je reviens. Poser ma rose fière sur la terre des anciens. Je ferai rugir les gares, les rêves de grands chemins. Il faut bien que je parte pour devenir quelqu'un.
Au quartier du soleil, quand j'apprenais la boxe, pour secouer les grilles de l'avenir branlant.
comme une torche que n'éteint pas le vent. J'ai franchi l'océan. Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne, plus brave que belle, plus frère que fier, plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne. Il faudra que je parte. Le tramway du désir à 5 heures du matin. Les paupières mi-closes, la musique sur pause, les mains calaminées et les rêves en sursis. La guitare, si lointaine, me parle de pays, d'Amazon en cavale et de femmes fatales. Il fallait que je parte.
Je crache mes poèmes, je crache mes premières cigarettes. Je gueule dans l'usine morte, les entrailles ouvertes. Milliers d'arpèges dans le garage, chasseur d'orage à vélo. L'aventure c'était les fruits volés, les plans d'eau. Si mon cœur est bizarre, c'est peut-être que mon accent est bizarre. Tous les mots que j'écris jaillissent de ma terre noire. J'ai tordu la vie pour elle, dans ses forges imaginaires. Je suis pas un marin, mais j'ai pris la mer.
Je tiens d'elle, ma Saint-Étienne. Plus brave que belle, plus frère que fier. Plus fière que celle qui n'a pas souffert. Je savais pas bien comment devenir ce musicien. Partir loin d'elle, ouvrir mes ailes. Quel visage auras-tu demain, ma Saint-Étienne? Ma Saint-Étienne.
Bernard Lavilliers, son nouveau titre avec Terre Noire, Je tiens d'elle.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Geneviève Brisac est avec nous pour son nouveau roman Les Enchanteurs, un roman sur le pouvoir dans le monde du travail, ces hommes qui osent tout sous le prétexte de la réussite pour le bien de l'entreprise. Les Enchanteurs sont des pervers, Geneviève ?
Probable. Je ne suis pas psycho-sociologue, je suis juste écrivain.
Vous les dessinez un peu comme ça en tout cas.
Bah oui, peut-être, je ne sais pas. Je les décris juste.
Oui. Il y a votre personnage, Nook, qui travaille dans le monde de l'édition. Un monde qui pourrait être préservé, un milieu intellectuel qui connaît tous les tenants et les aboutissants. La culture ouvre l'esprit, doit préserver des dérives en général. Mais en fait, non. Vous donnez un coup de pied dans la fourmilière ou vous enfoncez une porte ouverte, là ?
C'est plutôt à vous de me le dire, moi je ne sais pas.
Je ne
donne jamais de coup de pied dans les fourmilières. Ouais. Voilà, je préfère quand même enfoncer des portes ouvertes.
Vous attaquez quand même, là ?
Je ne me rends pas compte, mais sans doute.
Ouais.
J'attaque, oui.
C'est un peu rude. C'est vous réaliste, trouvez. Mais c'est rude.
Rude.
Ouais. Vous l'avez vécu, vous l'avez constaté, ce que vous écrivez ?
Je raconte. Je pense que moi, je suis une personne assez réservée, en fait, timide. Je regarde beaucoup, j'observe beaucoup, j'emmagasine. Et donc, forcément, à un moment donné, ça devient des scènes.
Ouais, c'est ça.
Et je vois les scènes. Ce n'est pas des choses que j'ai vécues, c'est des choses que je vois. C'est, je crois, Junot qui disait « Mon travail, le matin, je descends, je m'assois devant ma fenêtre, je l'ouvre. » Et j'écris ce que je vois. Ouais. C'est comme ça que je procède, en fait.
Alors, c'est comme ça que vous suivez la vie de Nook.
Oui.
De ses études à ses débuts professionnels, elle a envie d'être normale, cette jeune femme.
Oui.
Mais tout autour d'elle tente de la pervertir. Quel est le processus et pourquoi on fait ça ? Pourquoi on pervertit comme ça ces jeunes femmes ?
C'est presque la description, vous savez, de l'anormal, de vouloir être normale. Elle voudrait beaucoup être normale parce qu'elle n'est pas si normale que cela, si tant est que normal est un sens. Ce qui est encore tout à fait à voir. Et René de Rebeldia aurait pu nous éclairer là-dessus. Alors, elle a l'idée que les livres lui ont sauvé la vie à différents moments où elle en a eu besoin. Un petit peu comme la musculation pour Thomas Gottschalk. Parce qu'en fait, je pensais, en lisant sa description de la musculation, que ça ressemblait beaucoup à la lecture.
Ouais.
Toutes choses égales. C'est pareil.
Ouais.
Vous oubliez votre fils qui ne vous comprend pas, vos factures qui vous attendent. Bon, la différence, c'est que quand vous avez fini de lire, vous êtes probablement un peu musclé le cerveau.
Oui.
Mais moins le corps. Donc l'idéal, évidemment, ce serait de faire de la muscu en lisant.
Alors le monde de l'entreprise aussi, c'est comme ça. Parce que ça fait oublier les choses. Oui. On oublie. Alors il y a des intérêts financiers, il y a des intérêts sexuels aussi. Vous le racontez, ça, avec ces hommes de votre roman qui croient dur comme fer que coucher est un mode de vie sain et normal.
Oui.
Regarde la nature, nous sommes sur Terre pour manger, dormir et baiser. N'est-ce pas simple et beau? Et il dit ça à une de ses collaboratrices.
C'est vrai, ça a l'air, de l'être, ça n'est pas.
C'est hors cadre, quoi.
Oui, mais ça, à l'époque, c'était pas. C'est du baratin, bien sûr. Mais cette idée des années 70-80 que la liberté, c'est génial. Il a fallu la liberté du renard libre dans le poulailler libre, comme on disait à l'époque. C'est toute une question très compliquée, pleine de contradictions. Un des patrons de ces maisons d'édition dont je parle disait toujours, si vous voulez gagner de l'argent, ne faites pas de l'édition. L'édition, il n'y a pas d'argent à faire. L'édition, on publie des livres pour cultiver les gens, comme les hôpitaux, c'est fait pour soigner les gens, l'école, c'est fait pour instruire, et les maisons d'édition, c'est fait pour produire de beaux livres, pour nourrir l'esprit des humains.
Mais c'est plus le cas.
Voilà, that's the point. C'est-à-dire que...
Non, pas d'anglais ici, Geneviève, s'il vous plaît. Pas d'anglais dans la librairie francophone.
C'est vrai, enfin, je ne peux pas m'en empêcher. C'est Proust qui disait, vous savez, un écrivain, c'est quelqu'un qui fait ce qu'il ne faut pas.
Oui, c'est vrai.
Et qui dit ce qu'il ne faut pas. C'est un petit peu vrai.
On vous pardonne, allez.
Je ne fais pas exprès, ça m'est naturel.
Non, that's the point.
Et donc, l'édition a beaucoup changé dans le sens où des gens, pour des raisons que je ne comprends pas du tout, ont cru qu'il y avait beaucoup de profits à faire à cet endroit-là. Et d'ailleurs, en ont fait, probablement.
Mais il y en a à faire, oui, bien sûr.
Peut-être, je ne sais pas. Personnellement, je n'en fais pas, donc je ne sais pas. J'ai jamais très bien compris l'intérêt de l'argent, donc...
En tout cas, vous montrez qu'il faut se dépasser dans ce monde-là, avec vos personnages.
Oui.
Aller provoquer son destin et sa carrière aussi. Et on dit à Anouk une phrase qui va la perturber. On lui dit « Personne ne vient jamais chercher personne ».
C'est
moche. Trouve ça horrible.
Oui, c'est vrai. Par exemple, Thomas Gunzig m'a donné une barre de céréales. C'était inattendu. Ça aurait pu ne pas se produire. C'est parce qu'on est dans cette émission, la librairie francophone, avec des êtres d'une humanité... naturel et qui, quand ils voient l'un d'entre eux avoir faim, ont une barre de céréales à lui tendre. C'est mon idée du monde, c'est mon idée de la vie, et ça devrait se passer comme ça. Mais dans les entreprises que je décris, si quelqu'un a faim, personne ne cherche dans ses poches une barre de céréales. Et la deuxième chose aussi qu'il faut dire, c'est que c'est comme tous les milieux pyramidaux, hiérarchisés, où on s'approche du pouvoir, comme en politique aussi, plus on s'en approche, plus c'est violent. Plus les critères de sélection favorisent la brutalité, la violence, éventuellement un peu le mensonge aussi.
Et
c'est pas favorable à la création du tout.
Non.
Et c'est ça que je voudrais dire. Ce que je voulais montrer à travers les aventures de Nook, les aventures des maisons d'édition dans lesquelles elle travaille, où elle est très créative pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on barre la route à sa créativité, qui pourtant est très productive justement, eh bien... Ce que ne voient pas les fameux managers, puisqu'on est passé à une politique managériale, et c'est vrai dans tous les milieux, en vérité, la vie d'employé de Nook ressemble à celle de millions d'autres, c'est qu'en fait, leurs méthodes ne sont pas très productives. Mmh. Ça fabrique peut-être de l'argent, mais sûrement pas de la richesse.
C'est ça. Allez, on va aller voir du côté de nos libraires. Il y a au Canada Mike Viennot qui a lu votre roman, Geneviève Brisac. Mike.
Oui, voici un roman qui, si au début, il rend le lecteur un peu instable et incertain, mais il parvient très rapidement à l'enchanter. Brisac m'a baladé dans les couloirs des maisons d'édition avec un regard lucide, avec une approche poétique, avec une légèreté mélancolique qui nous fait étonnamment ressentir toute la lourdeur du milieu. Peut-être plus lourd qu'on ne peut l'imaginer, avec la griffe de l'autrice qui la personnalise cinglante, attentive et pertinente.
Cinglante et pertinente. Voilà, des problèmes de liaison, on est désolé avec le Canada aujourd'hui. Allez, la Belgique avec Déborah Damblon.
Eh bien, moi, il y a quelque chose d'évident dans vos romans, pour moi, Madame Brisac. Comme une justesse dans chaque mot, dans chaque personnage. Vous nous racontez vos histoires, sans phare, mais comme avec un clin d'œil ou une connivence, un petit sourire ironique. Et puis, de jolies références pour ceux qui ont lu vos autres livres. Et vous arrivez tout à la fois à être touchante, un peu grinçante même, drôle, pertinente. Mais votre force, surtout, je pense, c'est que chacun peut trouver dans vos écrits les passages qui vont le toucher juste et lui donner l'impression que vous adressez à lui seul.
Oui, vous avez réussi effectivement à cela, Geneviève Brisac, à capter comme ça le lecteur. Et en fait, votre sujet parle à tout le monde. Parce qu'on a tous vécu ce genre de choses dans une entreprise. En tout cas, on l'a tous constaté. On est obnubilé par son travail, Geneviève Brisac. C'est cela qui nous empêche de vivre pleinement.
Oui, je crois. Je crois qu'on est obnubilé non pas tant par son travail, ce qui pourrait être assez joli ou agréable. Quelqu'un, je sais pas, qui, je pensais, je sais pas pourquoi, brusquement, à de la sculpture sur bois. Quelqu'un qui sculpterait le bois ferait de beaux objets en bois, et puis ça c'est très bien d'être obsédé de cette manière-là, enfin c'est très bien, je veux dire, c'est, ça ne fait de mal à personne, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure sur la musculation. Mais c'est tout à fait différent, c'est d'être obsédé, persécuté par l'idée du voisin qui a ceci et vous pas cela, c'est l'envie, c'est la rivalité, c'est la jalousie, entretenue en général par les dominants, par la domination masculine, comme le dit Olaf, je crois, au début du livre. Vous, les femmes, vous adorez vous crêper le chignon, je ne sais plus comment il le dit, et de toute façon, vous vous détestez toutes, etc. etc.
Et parce que tout le monde entretient cela. C'est-à-dire qu'il y a ce pouvoir de domination, ces patrons qui ensorcellent leurs employés, et les employés entre eux vont se contaminer, je dirais, dans le côté négatif. Ben c'est-à-dire qu'il va y avoir la concurrence, et il y aura toujours quelqu'un pour dominer l'autre, même dans les échelles inférieures.
Sauf si, par moment, et moi je suis une personne utopiste, par certains côtés, en tout cas optimiste, il y a aussi des relations horizontales, de solidarité, de partage, parce que c'est beaucoup plus agréable de partager. C'est beaucoup plus agréable de, par exemple, quand on fait des livres, c'est beaucoup plus agréable de travailler ensemble. Un traducteur, un auteur, un correcteur, une correctrice, c'est beaucoup plus agréable d'être en harmonie avec une représentante, une libraire, de partager le goût du livre.
Oui, de travailler en équipe. Oui,
mais
c'est
tout
ça.
Simplement.
Et l'un des directeurs, il y a Werther, qui dira d'ailleurs être convaincu qu'on travaille mieux si les gens sont heureux.
Oui.
Sauf qu'on fait tout l'inverse.
Voilà.
On rend malheureux et on harcèle les gens.
Voilà. Nous sommes d'accord.
Il y a un truc qui ne va pas.
Mais oui.
Bon.
Pour ça qu'on écrit des livres aussi.
Bon, merci Geneviève Brisac.
C'est
Les Enchanteurs est paru aux éditions donc de l'Olivier qui célèbre cette saison ses 30 ans. On en avait parlé à Morges en septembre ensemble, vous vous souvenez?
Non, pas du tout.
Elle joue beaucoup avec l'humour, Geneviève, c'est génial. Merci Geneviève, merci beaucoup. Vous connaissez MC Solar?
Mais oui, j'aime
vous
beaucoup
aimez
MC
vrai
Solar.
Mais bon,
oui.
Allez.
Tu peux me nommer rappeur nostalgique, néo-romantique, aux actions bucoliques. Avant pour les gosses, les grands étaient des mythes. Regarde.
Et on change d'univers, justement, et d'ambiance avec l'artiste rappeur MC Solar et un extrait de son entretien diffusé dans la version télé de la librairie francophone. Moment choisi avec une anecdote, vous allez l'entendre, étonnante.
La fameuse francophonie, c'est quand même quelque chose. Hein. C'est-à-dire qu'on quitte notre banlieue, on se retrouve ou en Belgique, ou à Montréal-Nord, ou à Lausanne, en Suisse, et puis on se rend compte que à part le fait qu'on aime la musique, la danse et les choses comme ça, on est compris, et avec quelques petites différences, une parlure un petit peu différente, c'est très liant. On est très très heureux chaque fois en Allemagne, on sait qu'on ne comprend pas, mais quand on part au Sénégal ou au Canada, on est très très heureux. On se rend compte qu'on est exactement les mêmes avec juste un décalage d'accent.
Ouais. Il y a cet album aussi, 5e As, MC Solar, qui est un album sublime sorti en 2001, qui est sans doute le plus rap, le plus engagé aussi, très cinématographique dans la production musicale. Le cinéma vous a influencé, hein, Claude?
Oui, le cinéma souvent. Je regarde comment sont faits les films. Alors des fois je fais des films, j'appelais ça le cinéma pour les aveugles, c'est-à-dire que juste en écoutant, a priori on arrive à rentrer dans un film.
Vrai,
alors je l'avais fait avec Caroline, avec Victime de la mode, mais dans 5e As, il y a beaucoup de films qui sont là, la sensation, les interactions. C'était un album que je voulais un petit peu différent, c'est-à-dire plus combattant. Et puis très visuel.
Il y a une anecdote d'ailleurs concernant votre titre Nouveau Western, MC Solar, sorti sur Prose Combat. Il y a cette phrase Hollywood nous berne, Hollywood berne. Et alors c'est un clin d'œil en fait à un titre de Public Enemy, qui a pour titre Burn Hollywood Burn, sur le manque de diversité finalement dans le cinéma américain. Et quand vous chantez cette chanson en Suisse, à Berne, on voit les choses complètement différemment.
Oui, c'est-à-dire à Berne, les gens ils ou Berne, Hollywood, Berne. Et c'est super parce qu'ils ont le second degré. C'est un groupe suisse qui allait par le nom de Sens Unique, qui nous a raconté cette histoire. Et puis à chaque fois qu'on va en Suisse, et ben il y a voilà cette dédicace à la ville de Berne où je suis allé la voir il y a 6 mois pour voir si elle existait encore, et elle est toujours là.
On dit que John Wayne est looké à la Lucky Luke, propre comme un archiduc, oncle Sam me dit Hollywood, nous Berne, Hollywood Berne, dans la vie de tous les jours comme dans les nouveaux westerns.
MC Solar, il y a cette phrase, je suis lasse de trèfle qui pique ton cœur, Caroline. On a presque envie de la dire en la chantant, cette phrase-là.
Ouais.
À quoi vous pensiez à ce moment-là? Parce qu'on dit que c'est un peu la phrase clé d'MC Solar, de tout ce que vous êtes capable de faire avec des jeux de mots, avec des métaphores à tiroir.
Oui, c'est une phrase un peu clé. J'ai dû tomber dans une bibliothèque sur un livre, une somme sur les jeux de mots. Et donc, en sortant, je me suis dit, je vais essayer de trouver des jeux de mots. Et puis, l'as, trèfle, pique, cœur, carreau, ça a été en tâtonnant, en marchant, en allant dans le nord de notre quartier. Mais quand j'ai trouvé ces quatre... il fallait les assembler dans tous les sens. Je me suis dit, je vais faire une chanson qui va avec, en fouillant dans mes souvenirs. Alors ça a donné aussi ma technique, c'est-à-dire toujours jouer avec les mots, prendre du plaisir.
Les policiers. Vous pouvez nous la dire, cette phrase-là ?
Je suis lasse de trèfle qui pique ton cœur, Caro Lynn.
Je suis lasse de trèfle qui pique ton cœur. Lasse de trèfle qui pique ton cœur. Lasse de trèfle qui pique ton cœur, Caroline.
MC Solar est à retrouver dans la version télé de la librairie francophone en rattrapage sur les sites internet de vos chaînes de télévision francophone. Prochaine diffusion à la télé sur TV5 Monde France Suisse Belgique ce dimanche à midi.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
La chronique des libraires, deuxième partie, avec les coups de gueule et les coups de cœur. Un coup de cœur en Belgique, Déborah Damblon.
Oui, un énorme coup de cœur, poésie. Parce que, comme disait Claire, la poésie, c'est peut-être ce qui peut encore nous sauver tous. Alors j'ai très très envie de mettre à l'honneur une autrice qui est née, comme elle dit, sur la frontière linguistique entre la Belgique et le Sénégal. Et Kayas, son premier recueil, qui est un manifeste, c'est poético-politique. Et elle y montre ses cicatrices, les cicatrices d'un corps et d'une âme qui ont été blessées par les violences raciales, sexistes et homophobes. Et je vous garantis que c'est juste puissant, terrible et vivant.
Kayas de Joël Sambi. Merci beaucoup Déborah. Un coup de gueule en Suisse, Claire Renaud, pour terminer.
Oui, alors je ne sais pas si vous vous souvenez, mais j'avais fait un constat plutôt négatif sur les couvertures de livres.
Oui.
Et maintenant, voici mon constat sur certains titres de livres qui malheureusement n'ont pas trouvé preneur dans ma librairie.
Allez-y, faites-nous rêver.
Alors voici quelques exemples. Je change et j'avance sous le marteau du temps. Législation d'Hérobade. Tenir sur les talus, et je vous laisse le meilleur pour la fin, mon beau légume, que vais-je faire de toi ?
C'est pas mal, Les Enchanteurs de Geneviève Brisac, ça vous va comme titre ?
C'est magnifique.
Ok. Bon, merci beaucoup Claire, merci à vous. Avant de conclure, on écoute le son de l'outre-mer avec le jeune artiste guadeloupéen Bled Mikey, avec un extrait de Vent levé.
Songez lance un type envoyé fausse montée, il pique et j'ai trop tard. En traversée de l'eau et en pédale dans santé, ni mien qu'un bégoka. Bon zozio, ça en voulait, c'est volé, oh. En plus, si met tout m'blak qui bolé, oh. Si vent levé, bef la qui qu'on est, yo. En toujours au combat. C'est comme ça, oui, Congo. Eh oui, eh oui, eh oui. C'est comme ça, oui, Congo. Baguen kaba les Français. C'est comme ça, oui, Congo. C'est one in one now. C'est comme ça, oui, Congo. Depuis nani nana, vent levé. Vent levé. Kaele, kaele. Kamande le répondait. Répondait, levez la voix. Vent levé, maman. Kaele, kamande le répondait.
Léo Vini.
venir chercher moi. Des fois c'est moi monter en bateau à yo. En lagué sans en moi si bâton à yo. En isé moi pour faire bâton.
C'était un extrait de Vent Levé, le nouveau titre de Blade Mikey, originaire de la Guadeloupe. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook, Twitter et Instagram pour communiquer avec vous. À la réalisation, David Leprince avec le grand Julien Dumont. À la rédaction, Jean-Philippe Véret, Christophe Magère de France Inter, avec les équipes de la RTS, de la RTBF et de Radio-Canada, Thierry Dupin à la prog musicale. La semaine prochaine, on en parlait tout à l'heure, Laurent Godet sera avec nous, entre autres. Merci pour votre fidélité. Bon week-end, bonne semaine.